Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et sinon, ben aujourd'hui, 24 février, on est 3 ans plus tard après le déclenchement de la guerre en Ukraine, déclenchée par les Russes. Hein? Ah. Très important de le préciser parce que certaines personnes importantes disent l'inverse, mais non, c'est bien la Russie qui a débuté le tout par Vladimir Poutine qui voulait en finir rapidement avec l'État ukrainien. C'était ses mots au début de ce conflit-là, même c'était une vidéo qui avait fuité de Vladimir Poutine qui revendiquait la victoire après quelques jours, mais effectivement, ça n'avait pas été le cas. 3 ans plus tard, l'Ukraine tient toujours. Là. Ils sont encore là. Ils n'ont pas réussi. Ben, en fait, la Russie n'a pas réussi à faire cette guerre rapide comme ils le souhaitaient. 24 février 2022, matin, ce que le monde redoutait depuis plusieurs mois se produit. Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale en Ukraine après des décennies de paix relative. C'est le retour de la guerre en Europe. Il s'agit d'une attaque tout azimut. Les missiles pleuvent non seulement sur Kiev et sur les villes frontalières de Kharkiv, mais aussi sur les villes les plus reculées comme Odessa dans le sud-ouest du pays. Les soldats russes franchissent la frontière à partir de la Russie à l'ouest, du Bélarus au nord et de la Crimée au sud. Dès les premiers jours de l'invasion, les soldats russes tentent d'encercler Kiev avec l'intention claire de renverser rapidement le pouvoir ukrainien. La capitale réussit réussissent à ne pas se faire envahir. Une semaine après le début de la guerre, la Russie revendique la prise de Kherson, première victoire importante pour les troupes de Vladimir Poutine. Partout en Ukraine, elles font face à une résistance organisée et farouche. Les Ukrainiens et leur gouvernement, Vladimir Zelensky en tête, refusent de plier l'échine. Deuxième date importante, c'est Mariupol, du 28 février au 20 mai. C'est la Russie qui a la main mise sur Mariupol, mais se feront expulser le février, mars, avril, mai, 3 mois plus tard. Le haut commandement russe a dans sa mire la ville portuaire de Mariupol qui possède un accès stratégique à la mer d'Azov. En quelques jours, la ville est encerclée. Début d'un siège brutal qui s'étira sur plus de 3 mois, voilà, plutôt. On tente, tant bien que mal, de créer des couloirs humanitaires pour laisser sortir quelques 100 000 civils. Je me mélange de villes. Ils ont encerclé pendant 3 mois, mais la ville est pilonnée sans relâche. Les morts se comptent par dizaines de milliers. Le 16 mars, l'artillerie russe vise un théâtre transformé en refuge qui abrite des centaines de personnes. La plupart se retrouvent prisonniers des décombres. Les déluges de bombes se poursuivent. Impossible d'aller les secourir. Mi-avril, Poutine affirme que son armée est parvenue à contrôler la majorité de la ville. Toutefois, 2 bataillons ukrainiens refusent de rendre les armes et se terrent dans les complexes métallurgiques d'Azovstal, qui comprend un labyrinthe de tunnels. Bataillons tiennent tête aux Russes pendant un mois supplémentaire. On est rendu en mai. Plusieurs militaires ukrainiens sont tués ou blessés, sans soutien, sans ravitaillement et sans issue. Les autres finissent par se rendre à la fin mai. La Russie déclare alors qu'elle a pris le contrôle entier de la ville, mais de Mariupol, il ne reste alors que des ruines. Donc, ils n'ont même pas besoin de prendre le contrôle de quoi que ce soit. Il ne reste plus rien. 1er avril 2022, le massacre de Boutcha. Avec l'objectif de faire tomber rapidement le gouvernement ukrainien, les troupes russes se sont installées dans les banlieues de la capitale dès les premières semaines de l'invasion. Elles entrent notamment dans la municipalité de Boutcha, une ville de 28 000 habitants à 50 km de Kiev. Les stratégies initiales ayant échoué, le haut commandement russe ordonne les retraits des troupes au nord de l'Ukraine pour concentrer ses efforts dans l'est et dans le sud du pays. Le 1er avril, les soldats ukrainiens entrent à Boutcha. Des dizaines de cadavres de civils jonchent les rues de la ville. Certains ont des mains liées dans le dos. La plupart semblent avoir été fusillés. D'autres ont même été brûlés vifs. Oh. Les autorités de la ville font également la découverte de fosses communes dans lesquelles sont entassés des corps civils. Des dépouilles de femmes et d'enfants sont au nombre. Kiev dénonce d'emblée les crimes de guerre. Le 22 avril, un porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme confirme qu'au moins 50 civils ont été exécutés par des soldats russes. La Russie dit toujours nier sa responsabilité dans ces exécutions-là, mais qui d'autre?
C'est ça.
Qui d'autre, c'est pas eux. Fait que voilà, cette date importante en avril. De nombreux médias, dont le New York Times, The Guardian et Der Spiegel, ont enquêté sur le massacre de Boutcha. Le reportage corrobore la plupart des atrocités racontées par des témoins. Il y avait des images qui avaient fuité également de ces premiers retours dans cette ville-là. Puis c'était vraiment désolant comme constat. Fin 2022, novembre, 11 novembre 2022, Kherson est libéré, tandis que la guerre s'enlise au sud et à l'est. L'Ukraine organise une contre-offensive. Déjà en septembre, la résistance ukrainienne parvient à chasser les Russes de Kharkiv, la deuxième ville en importance au pays, située à la frontière entre les deux pays. C'est la défaite des troupes russes à Kherson qui écorche davantage le Kremlin. Dès juillet, les forces ukrainiennes s'en prennent à des infrastructures militaires russes dans la région. Les combats s'étirent sur de longs mois. L'Ukraine parvient à faire des percées qui repoussent toujours un peu plus loin les soldats ennemis. Le 11 novembre, 9 mois après la prise de la capitale régionale du Sud, le ministre de la Défense de l'époque, Sergueï Choïgou, ordonne le retrait de ses troupes de Kherson. Défaite d'autant plus cuisante que quelques semaines auparavant, Vladimir Poutine avait revendiqué l'annexion de la région complète. Lors d'un rassemblement patriotique sur la place Rouge en Russie, derrière lui, des banderoles laissaient entendre que la Russie serait à Kherson pour toujours. Ça n'a pas duré quelques semaines. De l'hiver 2022 au printemps 2023, c'est la bataille de Bakhmout. Alors que la guerre s'étire, une petite ville industrielle du Donbass devient, le temps de quelques mois, l'épicentre du conflit. Bakhmout, une ville anonyme d'à peine 70 000 personnes avant la guerre, est maintenant célèbre pour avoir été le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes du 21e siècle. L'enfer sur terre, hachoir à viande, les survivants de cette bataille et les analystes ont manqué d'images pour décrire l'intensité des combats qui s'y sont déroulés. On compare Bakhmout à Verdun, une ville française où pas moins de 700 000 soldats français et allemands avaient été tués ou blessés lors de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est le comparatif qu'on faisait avec ce qui s'est passé à Bakhmout au terme de la première année-ish de guerre. Symbole de l'absurdité de la guerre, la plupart des analystes s'entendent pour dire que l'intérêt stratégique de cette ville est complètement limité, voire négligeable. Et pourtant, tant l'Ukraine que la Russie s'arracheront quelques kilomètres de territoire pendant de longs mois au prix d'immenses pertes. 24 juin 23, rébellion avortée de Prigogine. Pendant la bataille à Bakhmout, Prigogine n'a jamais caché sa colère devant le haut commandement russe et le ministère de la Défense qui l'accuse d'être corrompu. On se souviendra de ce personnage-là qui, bon, c'était comme une espèce d'électron libre qui, faisait un peu à sa tête. C'est ça, qui voulait faire à sa manière, mais c'était ça, comme un commando spécial russe. Tension passe d'escalade en escalade jusqu'à ce que Prigogine annonce le 23 juin, le début d'un conflit armé contre le ministère de la Défense russe. Donc, il s'était rebellé contre son état-major. Le lendemain, une colonne de blindés qui portait l'insigne du groupe Wagner traverse la frontière en sens inverse vers Moscou. Donc, ils désertent les combats en Ukraine. Les troupes de Wagner parviennent à une centaine de kilomètres de la capitale avant de s'arrêter, puisque des négociations seront menées par le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Prigogine met fin à ces rébellions qui a finalement duré moins de 24 heures. Donc, on pensait que ça allait être un événement décisif, mais voilà, ça s'est réglé mystérieusement dans 24 heures et encore une fois, comble de malheur, 2 mois plus tard, un avion qui transportait Prigogine et 9 autres personnes significatives de son convoi s'écrase mystérieusement entre Moscou et Saint-Pétersbourg le 23 août 2023. Une analyse génétique confirme quelques jours plus tard la mort du chef de guerre parce que l'avion, bien sûr, n'était plus... il n'en restait pas grand-chose. Voilà, et cet avion qui mystérieusement disparaît le 23 août 2023. La percée de Koursk le 6 août 2024. L'année suivante, le conflit devient une guerre à longue portée. Les deux parties s'échangent missiles et drones kamikazes à intervalles réguliers. Le 6 août 2024, l'Ukraine surprend la Russie et le monde entier en envoyant 2 brigades profondément en territoire russe dans la région du Koursk. De Koursk, le but, selon le haut responsable ukrainien consiste alors à étirer les positions de l'ennemi, à lui infliger des pertes maximales et à déstabiliser la situation en Russie, transférer la guerre sur le territoire russe plutôt que sur le territoire ukrainien. Pris au dépourvu avec ses forces engagées de l'autre côté de la frontière, le Kremlin demande l'aide d'un allié de longue date, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un accepte de prêter des milliers de soldats avec pour mission d'aider à la reprise de Koursk. Si elle a depuis lors perdu une partie des territoires occupés, l'Ukraine maintient encore, à ce jour, un contrôle sur la région de Koursk, ou plutôt de Koursk, il y a un R. Plusieurs spécialistes croient que ces territoires pourraient servir de monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations de paix. Mais bon, si les Ukrainiens étaient autour de la table, ça pourrait être une négociation de paix. Mais pour l'instant, le retour du pouvoir de Donald Trump, huitième et dernier moment clé de cette guerre, le 20 janvier... il avait la promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine dès le jour 1 de son assermentation. Il faudra attendre un mois complet pour qu'il commence à parler de peut-être rencontrer la Russie seulement pour pouvoir négocier la paix avec ce conflit en Ukraine. Le président américain a changé tout au tout la position des États-Unis à propos du conflit, reprenant la rhétorique complète du Kremlin, soit que c'est toute la faute de Volodymyr Zelensky, que c'est l'Ukraine qui a attaqué la Russie en premier, que c'était de la faute des néo-nazis en Ukraine, que la Russie devait absolument venir libérer le peuple de l'Ukraine, et tous ces messages qui ont tenté de justifier l'invasion non justifiée de la Russie en Ukraine. Et ce qui a fait également en sorte que Donald Trump avait déclaré de Volodymyr Zelensky que c'était un dictateur parce qu'il n'avait pas fait d'élection l'année dernière comme normalement il y aurait dû en avoir. Mais dans la constitution ukrainienne, si on est en temps de guerre, il n'y a pas d'élection qui tienne.
C'est pas
vrai qu'on va faire des rassemblements de gens pendant la guerre et que ces rassemblements-là soient bien sûr identifiés pour que l'ennemi sache où attaquer pour faire le plus de victimes possible. Donc, stratégiquement, ça n'aurait aucun bon sens de faire des rassemblements politiques pour faire des élections. Et évidemment, Volodymyr Zelensky est même allé d'une déclaration en date de cette fin de semaine-ci que si il quittait le pouvoir, ce serait dans le but de donner une chance à l'Ukraine de pouvoir intégrer l'Union européenne. Donc, il était prêt à sacrifier son poste si ça pouvait donner une place à l'Ukraine, à l'Union européenne. Et inversement, de l'autre côté, c'est Donald Trump qui veut entamer des discussions avec la Russie seulement pour discuter d'une résolution de guerre sans techniquement le camp adverse, donc vraiment de faire ça de manière complètement individualiste.
Mais honnêtement, on dirait bravo au gouvernement ukrainien parce que ils ont tellement tenu bon.
Oui.
Au départ, moi je me souviens qu'on disait ah mais ils vont pas tenir un mois. La Russie est grande.
C'est ça.
C'est une grande armée et tout. L'Ukraine à côté, c'est personne. Mais vraiment, ils ont tenu bon 3 ans et c'est gros. C'est vraiment, même s'il arrivait casse-cul, quoi que ce soit arrive, mais jusque-là, il faut vraiment les tirer un chapeau pour tout ce qu'ils ont fait. Et peu importe ce qu'il va faire Donald Trump ou pas, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est déjà super good. Ils peuvent juste être fiers d'eux.
Voilà, complètement. Qu'ils réussissent à être toujours présents malgré tout. Et parmi les revendications de Donald Trump, c'est qu'il voulait également un remboursement des 500 milliards de dollars qui avaient été prêtés quand le montant n'est pas du tout ça non plus. Donc, il y avait aussi peut-être Anguille sous roche où il voulait récupérer des minerais en Ukraine par le fait même. Donc, voilà. les ressources premières toujours qui mènent certains conflits. Et voilà, donc Donald Trump va se mêler d'affaires qui ne le concernent pas, comme d'habitude. Donc voilà un peu pour ce résumé des moments clés, des dates importantes. Évidemment, allez lire le tout sur notamment le site de Radio-Canada qui fait le bilan de ces 3 ans de guerre en Ukraine, le récit en 8 dates clés. On fait une courte pause ici sur les ondes de CFAQ et on vous revient avec le 9 de ce 24 février.